exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale Coupe du Monde. Nous sommes en ligne avec deux des envoyés spéciaux de RFI au Qatar, Cédric De Oliveira et Olivier Pron. Et Richard Rifono, grâce à qui on vous entend si bien tous les deux. Rebonjour.
Rebonjour Anne. Salut Richard.
Toute l'équipe ici à Paris et à Doha attend vos messages, vos commentaires sur la phase de groupe qui se termine donc ce soir. Je vous rappelle que cette émission est à suivre en direct sur Facebook. Alors il y a un pays dont on n'a pas encore parlé mais qui a brillé et surpris, c'est le Sénégal. On a reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages sur les Lions. Il faut dire que la performance le mérite, une qualification en huitième de finale, c'est la première fois depuis 20 ans. Bonjour Claude.
Bonjour RFI. Bonjour à tous les auditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous par Skype, ça nous permet de nous voir. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe du Sénégal?
Oui, déjà c'est une satisfaction pour ce deuxième tour auquel nous accédons. Pour moi personnellement, ce n'est pas une surprise parce que je l'ai dit, je pense que juste avant le début du mondial, l'équipe sénégalaise que nous avons est un bijou. Avec une très bonne gestion, elle nous vaudra beaucoup de satisfaction. Et nous croyons en nos chances vraiment pour aller le plus loin possible.
Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu pendant les premiers matchs?
Oui, déjà, c'est cette solidité de l'équipe et cette entraide que l'on sent, cette homogénéité de l'équipe. Aussi, il faut dire que ce n'était pas évident parce que nous avons raté notre premier match, mais l'équipe a su se ressaisir, refaire face et vraiment tirer son épingle du jeu. Donc ça m'a beaucoup plu et surtout cette rage de vaincre de notre capitaine Kalidou Koulibaly, donc, qui a porté l'équipe, qui a pris ses responsabilités en bon leader vraiment pour tirer ses coéquipiers vers la qualification.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Claude, d'avoir partagé donc votre enthousiasme à propos de cette équipe du Sénégal. Première qualification depuis 20 ans. On va continuer à parler des Lions. Bonjour Esdras.
Bonjour Anne Cantenet, bonjour à toute la grande équipe de RFI. Et un coucou spécial à nos deux envoyés spéciaux, Cédric D'Oliveira et puis Olivier Pron.
Vous aviez des questions pour eux?
Oui. La première question est la suivante. Comment expliquer la bonne prestation du Sénégal, pourtant privé de leur attaquant vedette Sadio Mané?
Olivier Pron, vous êtes en ligne avec nous pour répondre à Esdras. C'est vrai qu'il manque quand même une star dans l'équipe du Sénégal.
Oui, c'est pour ça qu'il faut que Neymar revienne, parce qu'il y en a 4 ou 5 des stars dans cette Coupe du Monde et Sadio Mané nous manque tant. Il manque au Lyon, mais est-ce que finalement ce forfait n'a pas fait en sorte d'unir cette équipe encore un peu plus qu'elle ne l'était? On peut vraiment se poser la question. J'étais ravi, l'auditeur précédent rendait hommage à Kalidou Koulibaly. Aimons tous en cœur Kalidou Koulibaly parce que c'est un type extraordinaire, en plus d'être un très grand défenseur et un super joueur et un grand capitaine pour les Lions, qui peut mener cette équipe très loin parce qu'il montre l'exemple. Il a même marqué un but. C'était le moment où jamais un but décisif. C'était son premier en sélection. Sadio Mané leur envoie des messages après chaque match. Il est là, il est présent, il est rentré chez lui. Il a été opéré il y a 15 jours maintenant. Il espère être de retour en tout une absence de 2 mois, donc être retour pour la Ligue des Champions. Donc il est absent et en même temps très présent. Il y a une grande unité dans ce groupe qui considère, rappelons-le, que de sortir des poules même sans Sadio Mané, c'était la moindre des choses pour un champion d'Afrique. Et ils ont bien raison. C'est vrai qu'avec l'absence de Sadio, on pouvait commencer à douter. Mais le groupe n'était pas insurmontable. Ils n'ont pas raté leur premier match. Ils ont juste raté les 7 ou 8 dernières minutes, ce qui leur ont coûté 2 buts. Ils se sont bien rattrapés ensuite face à un très faible Qatar. Et ils ont été solides mentalement et physiquement face aux Équatoriens. Ils sont libérés. Le champion d'Afrique est en 8e de finale. Et face à l'Angleterre, il y a une carte à jouer, n'en doutons pas. Et on sera là pour vous raconter tout ça sur RFI dimanche soir.
Olivier, je crois qu'Esdras avait d'autres questions pour vous. Esdras, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis là. La deuxième question était de savoir comment l'équipe s'est-elle réorganisée sans son attaquant star.
Olivier Pron?
Eh bien, elle a densifié un peu son milieu de terrain. Elle était encore un peu, je trouve, trop prudente. Mais ainsi va l'avis du sélectionneur Aliou Cissé, auquel on a souvent fait ce reproche d'être un peu trop prudent et de ne pas créer. Alors, elle manque de milieu créateur, d'autant plus sans Sadio Mané. Mais face à l'Équateur, où elle n'avait pas d'autre choix que de gagner et donc de marquer, eh bien, tout d'un coup, on a vu Idrissa Gueye placer un petit peu plus haut. Donc, parmi les joueurs offensifs, on a vu Nampalis Mendy aussi ensuite. On l'avait vu beaucoup sur les premiers matchs. On a vu Pape Gueye, on a vu Pathé Cisse, on a vu Illiman Ndiaye, la petite pépite, 22 ans, qui est née à Rouen, mais qui a très tôt décidé de jouer pour les Lions. Et on l'avait vu entrer en jeu, il a été titulaire face aux Équatoriens. Donc voilà, une équipe plus offensive, et on aimerait bien que ça continue et voir ça aussi face aux Anglais, parce que ça leur a plutôt réussi aux Lions d'être un peu plus créatif, un peu plus entreprenant, un peu plus devant.
Merci Olivier. On va accueillir à présent un autre auditeur, toujours pour parler du Sénégal. Bonjour Badi.
Oui, bonjour Rafi.
Notre envoyé spécial au Qatar nous le disait, ça paraît jouable, possible en tout cas, une victoire face à l'Angleterre. Vous y croyez-vous ?
Toujours, oui, il faut toujours y croire. On a vu que c'est une Coupe du Monde vraiment très serrée, beaucoup de surprises. Donc malin celui qui pourra dire le résultat avant la fin du match. Par contre, voilà, on est très fiers de nos Africains. Félicitations à nos amis, à nos frères marocains, nos frères sénégalais. On espère une qualification des autres équipes africaines, une qui est très bien engagée, le Ghana. Et donc, du coup,
qui jouera face à l'Uruguay tout à l'heure.
Absolument, une belle revanche, on l'attend, hein, celle de 2010. Donc, ça pourrait aussi remettre un petit peu en question le nombre de pays participants par rapport à l'Afrique. Hein. On a le plus bateau d'équipes qualifiées par rapport au nombre d'équipes engagées dans les qualifications. Et on a déjà presque 3 sur 5. On espère 4 sur 5. Ça serait vraiment, vraiment une très belle surprise. Et allez le Sénégal, hein. On est là, je les supporte depuis le début et j'y croyais. Donc on espère qu'ils vont aller vraiment, vraiment plus loin.
Ce sont eux parmi les équipes africaines qui ont le plus de chance selon vous ?
Oui. Non, attendez. Avant le début, je disais oui. Maintenant, on a une équipe du Maroc qui nous a vraiment, vraiment doué de football. Petit balbutiement au premier match avec une attaque qui était un peu fébrile. Et après, ils ont pris leur repère et on a vu une très, très belle équipe qui propose un très, très beau foot. Un foot comme on le connaît des équipes d'Afrique du Nord. Et qui aussi, on peut en dire aussi, et de l'Afrique de l'Ouest, comme celui du Sénégal. Que j'aime beaucoup. Donc là, je me réjouis à voir les deux équipes jouer et j'espère qu'on va les revoir, les voir dans les stades plus avancés.
Merci beaucoup Badi d'avoir été avec nous. On fait quand même un petit coucou à l'Algérie puisque je vois que vous portez les couleurs
oui,
de l'Algérie
toujours
sur votre maillot. Merci d'avoir été avec nous et de nous avoir appelé. On vous souhaite une très bonne journée et on va se diriger, retourner maintenant au Standard où nous attend Armand. Bonjour Armand. La ligne, on n'a pas très bien entendu ce que vous nous disiez au début. Armand, vous nous appeliez pour poser des questions sur l'équipe de France.
Oui, évidemment, j'appelais pour l'équipe de France. Alors, après cette phase éliminatoire, nous avons regardé l'équipe de France et pas mal d'équipes d'ailleurs. Et je souhaiterais quand même poser quelques questions, à savoir... est-ce que les performances de la France de cette année sont-elles suffisantes pour réitérer l'exploit de 2018 ?
C'est Cédric de Oliveira qui va vous répondre en direct de Doha. Cédric, on peut imaginer une victoire comme il y a 4 ans pour la France ?
À partir des huitièmes de finale, de toute façon, oui.
Tout est possible.
On peut tout imaginer, mais on peut surtout imaginer parce que la France, elle a été convaincante. Depuis qu'elle est à Doha, alors on ne parle pas du troisième match, on va le mettre de côté puisque Didier Deschamps a fait énormément de changements, donc on ne va pas prendre en compte ce match face à la Tunisie, mais c'est vrai que face à l'Australie puis face au Danemark, les Bleus ont convaincu, victoire 4-1, victoire 2-1 avec notamment un Kylian Mbappé, on va dire dans la forme, en tout cas dans une dans une très très bonne forme. Kylian Mbappé qui a déjà marqué 3 buts. La France qui a trouvé la bonne formule avec une charnière centrale, Raphaël Varane, Upamecano. Il y a aussi Adrien Rabiot au milieu de terrain qui forme la paire avec Tchouaméni. Ce qui fait que ben, il y avait beaucoup d'absents. Paul Pogba, N'Golo Kanté. Pour l'instant, ça ne se fait pas ressentir. Et puis il y a cette trouvaille au milieu du terrain. Antoine Griezmann qui sert de relayeur avec sa qualité technique et son volume de jeu. Eh bien, ça fait toute la différence. La France qui eh bien, fait partie des favoris, je crois que Olivier sera d'accord avec moi, avec le Brésil, avec l'Espagne, finalement c'est l'équipe voilà, qui dégage la meilleure impression.
Oui, oui, si l'on on en reste sur les deux premiers matchs, la France a quand même battu l'Australie 4-1. L'Australie, vraiment un énorme invité surprise en huitième de finale. Elle a un peu plus peiné pour battre le Danemark qui est passé complètement finalement à côté de sa Coupe du Monde. Et puis l'équipe B, voire C de l'équipe de France a connu toutes les peines du monde face à la Tunisie. Ça fait plaisir aux Tunisiens, c'est bien là l'essentiel. La France est en huitième de finale, on n'en attendait pas moins face à la Pologne. Il faut bien sûr qu'elle est favorite et bien sûr qu'il ne faudrait pas qu'elle ait un blessé supplémentaire. En revanche, on l'a bien vu, il n'y a pas de banc et sur certains postes ça pourrait poser un problème, mais elle est là, bien là. Quand on voit la Belgique, l'Allemagne, le Danemark sortis dès le premier tour, on se dit que voilà, les favoris naturels, l'Argentine, on citait le Brésil, l'Argentine, la France dans les trois favoris, les trois équipes sont là au deuxième tour, donc c'est assez logique.
Pour l'instant tout le monde est là, merci beaucoup. Bah, Olivier, vous avez répondu à l'autre question d'Armand qui s'interrogeait sur les chances de la France face à la Pologne après ce match bon, un peu moyen face à la Tunisie, mais enfin ça n'était pas l'équipe A, vous nous l'avez rappelé tous les deux. Armand, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, on vous souhaite une très bonne journée à Libreville et on prend la direction de Bamako où nous attend Fousseni. Bonjour Fousseni.
Oui bonjour RFI.
Vous aussi vous aviez des questions à propos de l'équipe de France?
Effectivement. Karim Benzema se remet progressivement de sa blessure. Pourrait-il retrouver le bleu pour le huitième ou le quart?
Cédric De Oliveira?
Non. Voilà, je vais,
trop tôt.
Je vais m'avancer. trop tôt, même là, les huitièmes de finale, c'est quand même dimanche. Hein, donc, c'est vraiment c'est imminent. Et puis, surtout, alors c'est vrai que l'histoire avec Karim Benzema, voilà, il y a un peu de flou. La communication n'a pas forcément été très bonne. On sait que Benzema, lui, voulait rester dans le groupe France. Mais ce sont les Bleus et le staff médical et Didier Deschamps qui ont décidé de le renvoyer parce qu'il ne pouvait pas être à 100%. En tout cas, dans cette Coupe du Monde, il ne voulait pas d'un poids d'un Karim Benzema qui était dans le groupe, mais qui ne pouvait pas forcément jouer durant cette Coupe du Monde au Qatar. Benzema, il est à la Réunion en ce moment pour poursuivre eh bien, sa remise en forme. En tout cas, il se remet de sa blessure. Il est toujours officiellement, hein, il fait partie des 26 Bleus convoqués pour cette Coupe du Monde. Il pourrait effectivement revenir dans l'absolu s'il était en bonne forme. Mais Didier Deschamps, il a balayé cette éventualité en conférence de presse cette semaine en disant que non, voilà, s'il n'était pas là, c'est qu'il ne pouvait pas répondre à l'exigence aussi de la Coupe du Monde parce que eh bien, quand vous retournez à l'entraînement, ce n'est pas la même chose que dans un match comme ça de très haut niveau.
Oui, donc, puis évidemment, plus on va avancer dans la compétition et plus il va falloir être au top du top.
Ce qu'il y a, c'est que officiellement, si les Bleus vont au bout, il sera champion du monde, Karim Benzema, ce qui est assez cocasse sans jouer une minute. Mais il y a très très peu de chances, il n'y a même aucune chance de le voir en huitième de finale ni en quart de finale. Après, voilà, ce serait une énorme surprise de le voir, si les Bleus vont en finale, le voir revenir à Doha. Et ça a été balayé encore une fois par le joueur, par le staff médical et par le Real Madrid, son club.
Et par vous, on peut vous faire confiance quand même. Donc a priori, Fousseni, pas de Karim Benzema dans les prochains matchs. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Passez une très bonne journée à Bamako. Merci Cédric d'avoir répondu aux questions de Fousseni. Toussaint nous attend maintenant au standard. Bonjour Toussaint.
Bonjour, bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et merci de nous avoir appelés par Skype, ce qui nous permet de nous voir et on pourra retrouver toute cette émission, je vous le rappelle, sur Facebook puisque nous sommes en direct sur la page d'appel sur l'actualité. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Toussaint, de cette phase de groupe qui n'est pas encore tout à fait terminée, mais enfin...
Ben, je pense que c'est une très belle compétition qui nous a réservé quelques surprises. Et pour le moment, l'Afrique est à 2-3. On espère que cette fin de journée nous emmènera à 4-5. Donc, on est bien content. Et le football, c'est toujours une fête. On regarde de beaux gestes. On regarde de belles personnes qui courent derrière un ballon. C'est toujours très beau à regarder.
Vous nous parliez de surprise. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous ?
Que le Japon soit premier d'une poule où il y a l'Allemagne et l'Espagne, sincèrement, je ne l'aurais pas pronostiqué. Voilà. Et je pense que beaucoup de spécialistes ne l'auraient pas pronostiqué.
Et qui ont réussi à faire trembler l'Espagne.
Exactement. Exactement.
Est-ce que vous y croyez ? Vous nous disiez aussi que vous espériez qu'on serait à 4 équipes africaines qualifiées pour les 8e de finale ce soir. Ça signifierait donc que le Cameroun passe. Est-ce que vous pensez vraiment que les Camerounais peuvent aller arracher cette qualification ?
Bon, normalement, nous tous, les 8 milliards d'habitants, pensent que c'est possible. Sinon, le match ne se jouerait même pas. Si le match se joue, c'est que c'est possible. Maintenant, si on est un peu réaliste, c'est le Brésil en face, ce sera difficile, mais ça ne peut jamais être impossible.
D'autant plus que le Cameroun peut passer, mais il faudra quand même un petit miracle, puisque comme nous le rappelaient nos envoyés spéciaux tout à l'heure, ça ne dépend pas seulement du Cameroun, ça dépendra aussi de l'autre match de la soirée, donc la Serbie face à la Suisse. Dans l'autre groupe, le groupe H, il y aura le Ghana face à l'Uruguay, et Taylor nous a écrit pour nous demander quelles étaient les chances du Ghana ce soir face à l'Uruguay. Cédric de Oliveira, vous avez envie de répondre à cette question ? On a une idée de ce que peut faire le Ghana ce soir ?
Ah oui, il y a une réelle chance de qualification pour les Black Stars qui sont plutôt en ballotage favorable. Ils sont deuxièmes, les Black Stars. Ils n'ont besoin que d'un nul face à l'Uruguay pour décrocher la deuxième place de ce groupe H. Alors, il y a un autre scénario, mais je ne vais pas vous le donner parce qu'il est assez invraisemblable. Le Ghana qui n'a besoin que d'un point, ce sera face à l'Uruguay. On rappelle évidemment que ce match a un petit parfum particulier puisque c'est 12 ans après le quart de finale perdu lors du Mondial 2010, perdu notamment à cause de la main de Luis Suarez qui avait empêché un ballon de rentrer derrière le Ghana, avait perdu au tir au but. Et
il en a reparlé d'ailleurs en disant qu'il n'avait pas à s'excuser.
Ah oui, Luis Suarez, effectivement,
il a raison,
il n'a pas à s'excuser. En conférence de presse, c'était un beau numéro de Luis Suarez qu'on verra peut-être sur le terrain tout à l'heure. Les Ghanéens qui vont avoir un beau coup à jouer et éventuellement un huitième de finale à aller chercher. Ce serait la troisième fois en 4 participations.
Merci Cédric. On va accueillir un dernier auditeur, il nous reste un petit peu de temps. Bonjour Kodjo.
Bonjour RFI, bonjour Anne Contenet.
Vous aviez aussi une question pour nos envoyés spéciaux au Qatar.
Oui. Comme vous le savez, nous sommes à la Coupe du Monde au Qatar. Depuis cette Coupe du Monde, on assiste à des temps additionnels records, notamment lors du match Angleterre-Iran, avec plus de, 27 minutes d'arrêt de jeu. Bon, comment expliquer ce temps additionnel aussi long comme ça ?
117 minutes de jeu, effectivement, et ça n'était pas une exception, hein, Olivier Pron. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les temps additionnels soient aussi longs cette année ?
Parce que la FIFA, alors elle a un peu oublié de prévenir tout le monde, hein, notamment les diffuseurs du côté de la télé. Je vous renvoie à TF1, je pense qu'ils sont ravis. Ils ont un peu oublié de prévenir tout le monde. Bah, c'est la FIFA, ils communiquent à tort et à travers sur des tas de trucs, puis ils oublient sur l'essentiel. On a considéré à la FIFA qu'il fallait maintenant faire jouer le temps de jeu effectif, c'est-à-dire que dès qu'il y a un arrêt de jeu, il est comptabilisé et il est rendu à la fin. Tout simplement. Alors, quand il y a des changements, quand il y a des blessures, quand il y a des contestations, quand il y a l'appel à la VAR, eh bien, tout ça est mis de côté. À la fin, l'arbitre est dit, bon, bah alors, ça, ça fait tant. Et donc, on a des temps additionnels qui peuvent aller jusqu'à 10, 12 minutes. Ça s'est un peu calmé. J'ai l'impression que maintenant, on est entre 5 et 8 minutes, mais c'est déjà beaucoup.
On a trouvé une sorte de position intermédiaire.
Voilà, on est allé jusqu'à plus 11 quand même.
Oui, mais alors, ce qui est bien, c'est que nous, RFI, on est d'une souplesse extraordinaire et que vous ne ratez rien chez nous. Donc, ne regardez plus la la télé, venez nous écouter.
Et vous pourrez nous en donner une autre illustration tout à l'heure, Olivier Pron, Cédric de Oliveira, puisqu'on vous retrouvera pour commenter les matchs de la soirée. Cédric de Oliveira, Ghana, Uruguay à partir de 15h, temps universel. Et Olivier Pron pour le match Brésil-Cameroun, ce sera à partir de 19h, temps universel. À tout à l'heure. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez évidemment continuer à nous écrire sur les réseaux sociaux.
Transfert via GAB, le service d'envoi et de réception d'argent vers et à partir d'un guichet automatique du réseau des banques atlantiques, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.